il est dangereux. Même la famille me disait ça. Tout le monde me disait, voilà, c'est Lacan, vous, c'est expérimental, c'est dangereux. Non, c'est pas expérimental, c'est la vie. Bon. Et là, donc, on est dans cette histoire de symptômes et de symptômes avec cette grande répétition. Je vous donne un dernier exemple. Le plus banal, c'est un gamin qui va au supermarché avec son papa et sa maman le samedi. Et puis, il se balade dans les rayons avec le caddie, comme ça, avec la petite sœur, tout ça. Hein, pour des raisons d'allocation familiale, ils ont fait deux enfants. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Hop, il se trouve que là, au coin d'une rangée de marchandises, il voit son instituteur de la semaine qui est en blouse, qui est là en train de pousser le même caddie que son père avec les enfants, la femme qui prend des trucs. Le môme, ça lui ruisselle dans le corps, c'est l'expression de Lacan dans littérature, ça lui ruisselle dans le corps, il fonce et il va dire à ses parents, il dit « Papa, papa, regarde, c'est monsieur Dupont, mais je te promets, c'est monsieur Dupont ». Bien sûr qu'il est obligé de promettre parce qu'on ne va pas le croire. Quoi. C'est, vous voyez, c'est ça, c'est quand on découvre le Père Noël. Seulement, ce n'est pas le Père Noël. Voilà, c'est ça la rupture de semblant. C'est le Père Noël pour les névrosés et les pervers, comme nous tous. Hein, et puis, ce n'est pas le Père Noël pour les psychotiques, comme nous tous d'ailleurs aussi. Mais qu'il y a des moments où ce n'est plus le Père Noël. Voilà. Alors, en général, on met ça dans un coin du décor, on met ça dans un petit coin en bas. Et puis on essaye de ne pas s'en occuper. Bon, moi je peux vous en raconter des tonnes comme ça. Bon, mais le problème, c'est que ce n'est pas mon boulot de donner une représentation de ça. Mon problème, c'est de savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, comment écrire ça, et puis commencer à écrire. Et l'écriture, c'est quelque chose qui n'est pas comme la parole. C'est là que Wittgenstein se gourre bien. C'est qu'il n'y a pas. C'est vrai qu'il n'y a pas. Il y a des paroles singulières. Il n'y a pas d'écriture qui soit singulière. Il n'y a pas d'écriture particulière, personnelle. Donc l'écriture, c'est quelque chose qui fait lien social. Vous voyez. Et comme Lacan, il n'était pas fou, il dit, moi, ce n'est pas devenu une théorie, mon discours, c'est juste une proposition. Vous voyez, c'est prêt à tourner en théorie, et on peut en faire même la théorie mathématique. Voilà. La question que je pose aux esprits brillants de notre époque, c'est pourquoi empêcher que ça tourne en théorie, si quand ça tourne en théorie, ça devient, c'est plus de la psychanalyse, c'est des mathématiques. Mais qu'il y a deux manières de réussir dans la paranoïa. Les paranoïas réussis, c'est soit les mathématiques, on fait ça depuis les Grecs ou les Chinois, les Indiens, les musulmans, on leur doit beaucoup. Freud, il a inventé une nouvelle façon de réussir là où le paranoïaque échoue. Bon, pourquoi on empêcherait que la psychanalyse tourne matériellement? Alors pourquoi j'appelle ça matériel? Parce que c'est cette histoire d'objet. Voilà encore une chose à propos du transfert qu'il faudrait quand même dire aux enfants. Ils pourraient apprendre ça à l'école. C'est mieux que les cinq sens d'Aristote. On pourrait leur dire que dans Kant, il y a une théorie qui, au début de sa logique, il commence la logique, Kant, comme ça, il dit, voilà, il y a la sensation fournit des objets à l'intuition. C'est des objets comme ça, voilà. Bon, et l'entendement conceptualise ces objets. Ça fait des paquets, ça fait de... Voilà, on fait des ronds, il y a tous les objets bleus. Voilà, là, j'ai deux objets noirs, c'est le concept... Ça, je commence à construire le concept noir à côté du concept vert. Bon. C'est comme ça qu'on va faire les nombres, des choses comme ça. Mais le problème qu'il n'y a pas dans Kant, c'est qu'il y a aussi des trucs que la sensation fournit à mon intuition et qui est... bien sûr, vous me direz, c'est de l'encre sur le papier. Mais est-ce que mon entendement, les lettres que je lis là, est-ce que je vais les conceptualiser? Vous amusez? Oh, on peut faire des diagrammes de l'Erven. Hein. D'ailleurs, l'ironie de Lacan, c'est justement que ces ronds, ça ressemble beaucoup à des diagrammes de l'Erven. On pourrait faire des ronds autour des petites lettres. Tout à l'heure, je disais qu'on pouvait mettre des petites lettres dans les ronds. Il faut faire les deux. Mais quand même, il y a des objets que ma sensation fournit à mon intuition qui s'appellent des lettres. Et est-ce que je les conceptualise? Non, je les lis. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est mon entendement? L'objet, l'être, l'objet que Lacan va appeler A, c'est pas dans Kant. C'est marrant, les savants, ils oublient qu'ils écrivent comme ils respirent. Alors, ou bien quand ils écrivent, ils se rendent compte qu'ils écrivent, mais ils oublient qu'ils parlent. Bon. Donc, il faut être dans la psychanalyse, il faut être Freud. Et ensuite Lacan, pour s'apercevoir que parler et écrire, c'est deux choses différentes. Et que ni l'un ni l'autre ne va de soi. Et que entre les deux, il y a du grabuge. Ça ne va pas. Alors, qu'est-ce qui a inventé le symptôme, nous dit Lacan? C'est Marx. Alors, ce n'est pas une pétition stalinienne. Mais quand même. Alors, vous savez où Marx parle du symptôme? Il parle du symptôme, donc, dans les brouillons qui accompagnent le capital. C'est pas dans le capital. C'est dans les brouillons. Donc, la semaine dernière, on disait que ça se trouve dans le... C'est publié aux éditions sociales, semble-t-il. Vous avez trouvé, quelqu'un a trouvé ou non? Vous n'avez pas encore trouvé l'endroit où Marx dit qu'est-ce que c'est qu'un symptôme. La définition qu'il donne du symptôme, il dit c'est la survivance d'un ancien système de production dans un nouveau système de production. Hein? Et dans le Capital même, quand il parle de ça, il va parler de Don Quichotte. Je trouve que c'est très bienvenu parce que Don Quichotte, c'est le témoin qu'il s'est passé quelque chose de cet ordre. On a changé la littérature. La parole du roi Arthur, ça vaut plus. Don Quichotte passe pour un idiot, un con, un abruti, parce qu'il croit lui encore à la chevalerie. Pourtant, moi, je suis pas du tout médiéviste et ni féodaliste, ni je prône pas le retour à la féodalité, contrairement à ce qu'on appelle les libertins libéraux. Mais moi, je sais pas si je suis libertin, mais je suis d'avis que l'autoritarisme de la parole, il faudrait y réfléchir. Ça existe. Bon, ça existe toujours. Seulement, c'est plus de mode. À un moment donné, Don Quichotte, il paraît un idiot. Et Cervantes nous témoigne qu'il y a eu une cassure. Il y a eu cette rupture entre le symptôme en latin et le symptôme grec. Mais Marx, il ajoute cette chose très jolie quand il dit ça. Hein? Donc, dans cette structure qui va être la survivance de choses plus anciennes dans un autre système de production, Marx, il ajoute, et en plus, hein, une meilleure connaissance de l'anatomie humaine nous fera mieux connaître l'anatomie animale. Bon, c'est cette phrase qui est très célèbre, mais elle se trouve dans ce fragment-là, cet endroit-là. Bon. Donc voilà pourquoi je vous propose aussi de lire ce séminaire Le Symptôme de Lacan en le croisant avec Le Désir et son interprétation. Donc j'embrayerai là-dessus la semaine prochaine. C'est-à-dire que... Ah non, dans deux semaines, il va y avoir un mardi ou deux mardis où on n'est pas, où on n'a pas de, on se rencontre pas parce que le premier c'est un mardi, le 25 et le premier sont des mardis. Bon, donc moi je reprendrai le 8, hein, le 8 du mois de janvier pour 4 leçons puis 2 leçons en février qui sont pas encore annoncées mais ça va venir. Et puis ensuite je ferai une pause dans le collège et je vais vous proposer ceux que ça chante. Je ferai 4 leçons, mais on parlera d'autres choses, enfin en relation, mais on parlera d'autres choses. Je retournerai dans une salle qu'on va louer à l'Institut catholique pour fin février et début mars. Et puis je finirai ce cours ici en juin. J'ai réservé 4 cours en juin. Bon, voilà le programme pour l'année. Alors, d'où j'ai sorti cette idée que le symptôme, ça, c'était un remake du désir et son interprétation de Lacan qu'il avait fait 20 ans avant. Pas tout à fait 20 ans avant, 19 ans avant. Bon. Et que là, il y parle d'Hamlet. C'est parce qu'il parle d'Hamlet dans le désir et son interprétation. Il parle de la tragédie. Hein, je vous fais remarquer que les derniers séminaires de Lacan avant la topologie des surfaces, les séminaires qu'il a fait après la relation d'objet, là, quand il commence avec formation de l'inconscient, il utilise beaucoup le théâtre. Hein. Dans les formations de l'inconscient, il utilise le théâtre de Molière et de Jean Genet, les comédies. Il commente le balcon. Et puis, il parle des comédies d'Aristophane et de Molière. Et puis ensuite, là, dans celui-là, il va parler d'Hamlet, il passe à la tragédie. Donc, moi, à mon avis, Lacan, il est dans la poétique d'Aristote à l'époque. À l'époque de ces années avant d'introduire les surfaces. Les surfaces sont venues arrêter ce qu'ils faisaient avec la poétique d'Aristote, c'est-à-dire le fait de dégager la comédie et la tragédie, c'est-à-dire l'aliénation, ce qui va devenir l'aliénation pour la comédie, puisqu'il dit l'avare, c'est la comédie, hein, qu'est-ce qu'il y a dans la cassette de l'avare? Il y a la vie. Alors vous voyez déjà la bourse et la vie qui arrivent là, de Lacan. Ça se prépare. Bon, et bien ça, c'est l'aliénation de la. C'est le vel aliénant de la comédie. La comédie, l'opéra bouffe humain. Bon. Et la tragédie, c'est la séparation. Bon. Et donc, il parle d'Hamlet cette année-là. Il va parler d'Antigone, il va parler de la trilogie de Claudel. Vous voyez, il parle des tragédies. Et puis, il y a quelque chose auquel il tient particulièrement, puisqu'il refait ça avec Joyce. Donc, vous voyez, pour la référence du symptôme et du symptôme, vous avez Cervantes qui commence le roman moderne, Joyce qui achève le roman moderne. Hein. Vous avez la question des tragédies et la question des comédies, et vous voyez que cette topologie, elle est là pour prolonger cette écriture. Bon. Le théâtre, pour Lacan, a une fonction importante, puisque justement, c'est de l'écrit et c'est de la parole. Hein, on est en plein dans le sujet, si on suit mon hypothèse. Mon hypothèse, c'est que c'est ça le sujet. Hein. Cette division entre la comédie et la tragédie, entre la parole et l'écriture. Bon. Donc, d'où vient cette idée que Joyce est hystérique et qu'il est le fils préféré, c'est-à-dire qu'il se prend pour Hamlet? Ça vient de l'œuvre de Joyce. Oui. Soit dit en passant, hein, tous ces gens qui répètent à travers le monde depuis que quelques pauvres gens ont écrit que Joyce était psychotique après Lacan, il faudrait quand même qu'ils se rendent compte qu'ils disent des bêtises, mais ils n'ont pas lu Joyce ni Schreber. Parce que si vous lisez Schreber et si vous lisez Joyce, vous allez vous apercevoir que Joyce, justement, ce qui est très intéressant, Lacan en parle très bien dans son écrit sur Joyce. Joyce, le symptôme, avant de faire le séminaire, il l'appelle le symptôme. Dans cet écrit, il parle très bien du fait que Joyce, il est hystérique, c'est-à-dire qu'il ne veut pas se prendre pour une femme. C'est la définition qu'il donne. Hein, et qu'il se prend pour le fils nécessaire, c'est-à-dire qu'il se prend pour Hamlet. C'est page 568 dans les autres écrits. Hein. Le texte, il commence pas long avant. Hein. C'est 565, vous pouvez le lire en entier. Mais vous voyez, 168, il y a tout ça sur Hamlet, qu'on reprendra, et puis ensuite il parle du symptôme, comme une femme est un symptôme pour un homme, un corps est un symptôme pour un autre corps, et puis, voilà, et il nous dit à la fin, il nous dit, voilà, pardon, tout ça n'est que pour spécifier de Joyce de sa place, hystérique, comme Socrate, et là il ajoute, c'est là que se trouve le joint intéressant à propos de hystérie, c'est-à-dire le couple névrotico-pervers, la névrose de la perversion, hein. Qu'est-ce que c'est c'est le désir, le langage tombe sur un corps et ça fait un arc-en-ciel. Ça fait comme la lumière sur un prisme. Ça fait de la névrose et de la perversion. Pourquoi ? Parce que le langage, c'est cette division qui sépare, qui divise, mais c'est aussi tout le temps de la déviation. C'est le phonème. C'est l'instance de la lettre. N'importe quoi peut servir à écrire n'importe quoi. Alors, vous voyez qu'il n'y a pas de déviation sexuelle. Aujourd'hui, on vous parle de la pédophilie ou des crimes sexuels. Et bon, mais bien sûr, le sexe, c'est la déviation même. Alors, on ne peut pas parler de déviation sexuelle. Mais la déviation sexuelle, c'est névrose et perversion. C'est cet écart, comme ça, dans lequel on trouve l'hystérie, on va trouver Joyce. Et puis, de l'autre côté, vous avez la psychose. Et la psychose, c'est Schreber devenir la femme de Dieu. Comme ce serait beau d'être une femme qui subit l'accouplement. Bon, oui, moi, chez les hommes qui, en général, ça les fait éjaculer, alors, quand ils y arrivent, alors, à devenir une femme. Mais voyez, qu'est-ce qu'il dit, Lacan, de Joyce ? Il dit, Joyce ne se tient pour femme à l'occasion que de s'accomplir en tant que symptôme. Idée bien orientée, quoique ratée dans sa chute. Alors ça, il faudrait expliquer ça. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi c'est raté dans sa chute chez Joyce ? Hein ? Moi, à mon avis, c'est parce que ça reste de la sublimation, c'est pas l'analyse. Bon. Il est obligé de jeter le truc à la poubelle pour se supporter. Dirais-je qu'il est symptomatologie, écrit Lacan. Ce serait éviter de l'appeler par le nom qui répond à son vœu. Alors ça, j'ai proposé ça comme exercice. Il faut réunir les pages que indique Lacan ici, qui sont les pages où Joyce, hein, aimer le vœu d'être appelé, alors de quel nom, hein? Et que Lacan propose de l'appeler symptomatologie pour éviter de l'appeler de ce nom, qu'il faudrait quand même arriver à dégager du texte. Ce qu'il appelle un tour de farce. Son vœu, c'est un tour de farce. Ça se trouve, hein, dans les pages indiquées par Lacan. Les pages sont indiquées dans Finnegan's Wake, pages 162 et 509. Alors, il faut les photocopier. Hein. Moi, je les ai épluchés. Pour l'instant, j'en suis arrivé à plusieurs solutions. Alors, il y a plusieurs noms qui sont en compétition. ça va vous ressembler, ça va ressembler à l'infini ça s'appelle l'infini tel quel maintenant. Le truc de solaire, ça va ressembler à des histoires de Sainte Vierge. Il y a quelqu'un évidemment qui a trouvé le nom de la Vierge Marie, alors il a proposé la Vierge Marie. Bon, mais il y a d'autres concurrents. Bon, mais le tour de farce, n'est-ce pas, consonne dans ces pages avec Garce, où il l'énonce proprement par l'astuce du destin en force qu'il tenait de Verdi avant qu'on nous la sème. Alors avant qu'on nous la sème, évidemment, le destin en force qu'on nous a sème, c'est quoi? Ben c'est Œdipe, hein, c'est le coup de. Hein, on n'échappe pas à son destin. Bon, c'est une façon de lire Œdipe, très faible, hein, entre nous soit dit. Pour moi, ce qui est plus important dans Œdipe, c'est cette histoire-là, hein, de Œdipe et d'Hamlet. Il me semble que ce qui n'est pas résolu dans ces années de Joyce, c'est cette question que Lacan reprend justement entre Œdipe et Hamlet, et de voir comment est-ce qu'il a traité ça dès le désir et son interprétation. Il y a la leçon 19 de ce séminaire, où il fait tout un exposé que je vous invite à lire, la leçon 19, pour distinguer dans Hamlet, à propos d'Hamlet, Œdipe et Hamlet. Il fait des remarques qui évidemment n'intéressent personne aujourd'hui, mais qui sont quand même fondamentales, si on s'intéresse aux choses qui sont absolument fondamentales, mais invisible, lisible mais non marqué, hein, ces choses qui sont tellement fugaces qu'il faut apprendre à lire, et puis c'est, en plus c'est faux, mais c'est irréfutable, on ne peut pas dire le contraire. Donc vous voyez, c'est extraordinaire, mais il fait cette remarque, il dit que c'est quand même pas pareil parce qu'on nous bassine avec la culpabilité, là, avec la folie, le surmoi, hein, la réaction thérapeutique négative, tout ça c'est la folie, c'est la belle âme. Là, on sait que, on devrait savoir, si on a une expérience de la clinique des délinquants, que la belle âme, c'est ça la folie. C'est bien le misanthrope de Molière, c'est ça la folie. C'est pas quand même, ça devrait pas être extrêmement compliqué, mais Freud, ça lui paraissait exorbitant qu'on puisse être aussi fou. Bon, lui, il avait une éthique telle qu'il n'imaginait pas apparemment qu'il a besoin de construire le surmoi. C'est une pseudo-instance, comme dit Lacan dans son compte-rendu l'éthique, qui rajoute, c'est une pièce rapportée. La seconde topique, c'est le moi, le ça et la réalité. Puis il y a le surmoi. Bon. Le surmoi, idéal du moi. Bon. N'empêche qu'il faut quand même se poser la question sérieusement de la différence entre Œdipe et Hamlet, qui est de nous dire, Lacan essaye de le cerner, il dit c'est quand même pas pareil d'avoir commis le crime et de ne pas l'avoir commis. Parce qu'on nous, hein, c'est vachement bien de nous parler de la culpabilité inconsciente. Ça fait vachement psy, on est là, oui, la dette symbolique. Vous voyez, quand vous dites la dette symbolique dans une collectivité de gens avertis, tout le monde fait une génuflexion et se tait. Bon, seulement, c'est quand même, il y a une chose, ça peut faire souffrir, on est bien d'accord que c'est cette fragilité, c'est ce caractère fictif, illusoire, mais tout ça n'est pas pareil. Bon, seulement Lacan, il le dit bien, le drame d'Hamlet qui est pourri, qui a sa vie pourrie par l'oreille, parce que son père lui a révélé le crime et le fait qu'il y avait un criminel et que c'était l'oncle qui était un criminel, lui, il ne l'a pas commis. Donc, c'est ça quand même ce qu'il faut dire à l'heure actuelle, parce que sinon, on ne va pas en sortir discursivement de ces horreurs qui s'augmentent. C'est quand même que, vous voyez, Œdipe, il a commis le crime et il s'est châtié. Hein? Alors, on attend quoi? On attend qu'il se pende par quoi, au lieu de se crever les yeux, hein? le sujet, pour qu'on arrive à piger que, effectivement, c'est bien mieux de se crever les yeux quand on a accompli le crime que d'être, justement, même pas criminel, hein? Et puis de se retrouver avec le compte à régler du père, de l'oncle et de la mère. Bon. Donc, c'est vrai dans les deux sens que c'est pas pareil de l'avoir commis ou de ne pas l'avoir commis le crime. Vous voyez, il faudrait rentrer dans une dialectique là où, ça, je vous dis, ça intéresse personne. Je veux dire, évidemment, si on a une pensée de névrosé, d'observateur, on se met au balcon, ou bien si on a une pensée de flic et qu'on veut des on appelle ça prendre sur le fait, ça s'appelle. Hein? Ça s'appelle flagrant délit. Il y en a plein dans les télévisions. Vous voyez, moi, quand je vois la télévision française depuis Buenos Aires, Il n'y a que des histoires de flics. Alors je me dis pourquoi. Il paraîtrait que le préfet de police est devenu le chef du grand bordel. Ça c'est dans Jean Genet, le balcon. Relisez les balcons, nous vivons les balcons en ce moment. Le préfet de police, enfin, est arrivé au... Hein, on a demandé ses oripeaux, et c'est le révolutionnaire qui a demandé ses oripeaux. Bon, alors, Jean Genet, je sais bien, c'est quelqu'un de pas très présentable. Mon ami Dumas, il en sait quelque chose, il l'a défendu, et donc c'est pas étonnant quand on défend, quand on est l'avocat de Jean Genet, qu'un jour on se retrouve dans un tribunal. Hein. Sartre, il est mort trop tôt. Mais n'empêche qu'il faudrait, quand même qu'on s'intéresse à ces choses qui sont absolument... c'est comme de l'encre sur le papier, c'est vachement fragile, quoi. Ça peut disparaître, ça peut s'effacer, ça peut se dissoudre dans l'eau. Mais il y a, et les paroles aussi, bon, moi je pense bien que les paroles restent et que les écrits s'envolent, mais que la question, c'est la question de savoir comment ça se passe entre l'inertie de ce qui se dit et qui est toujours le... Ce que dans le séminaire, vous verrez, la parole, c'est là qu'on le dit bien, il parle du réel, du foutoir, mais il ne l'appelle pas foutoir parce qu'il essaye de rendre ça de poli et gentil. Il nous parle des embrouilles du vrai. Voilà, la parole, c'est les embrouilles du vrai, toujours les embrouilles du vrai. La vérité, c'est du côté de la parole, et le savoir, c'est toujours peu ou prou des histoires d'écriture. Quand vous avez des gens qui font état de savoir, c'est l'écriture. C'est pas la connaissance, c'est l'écriture. Savoir écrire, savoir lire, justement. Et entre eux, hein, le symptôme, c'est la vérité trouve de la jouissance à résister au savoir. Bon, c'est bien entre parole et écriture que ça se situe. Hein. Alors je vais m'arrêter maintenant, là il est 10h, et je vous dis qu'on reprendra un peu plus avec Hamlet la semaine du 8, le mardi 8 à 20h. D'accord. Tout le monde a eu la photocopie? Je vais demander si je peux pas avoir un plus grand tableau, mais ça sera peut-être ici avec deux tableaux. Tout le monde a eu la photocopie? Personne ne la réclame? Alors très bien. J'espère que vous n'êtes pas trop ennuyés ce soir.